Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Monnaie Libre. Et pour la première fois dans Monnaie Libre, on reçoit Cédric Moreau. Salut Cédric.
Oui, bonjour Stéphane, bonjour aux auditeurs.
Alors Cédric, tu viens dans cette émission Monnaie Libre parce que tu as annoncé avoir démarré hein, et déjà avoir mis au point un certain nombre de points d'avancement sur une nouvelle monnaie qui a un design libre qui s'appelle YouCoin, hein, je me trompe
voilà,
pas.
Voilà, YouCoin, oui.
Voilà, YouCoin. À pas confondre avec Bitcoin, mais c'est YouCoin, You comme, voilà. Comme You.
Ouais, c'est un jeu de mots.
C'est un jeu de mots.
Voilà, pour voilà. Dire que vous faites la monnaie.
Voilà, vous faites la monnaie, exactement. Alors on va en parler, mais pas tout de suite, parce que pour arriver à parler de YouCoin, on va voir aussi. Ton parcours, pourquoi tu en es venu à mettre au point ce design de monnaie, ce nouveau projet de monnaie libre, puisque c'est une monnaie libre, on peut l'annoncer. On va d'abord parler dans une première partie d'abord de ton parcours un peu et déjà bon ben si tu développes une monnaie, c'est probablement que tu ressens une critique du système monétaire dominant. Donc tu vas nous en parler. Pourquoi le système monétaire dominant te plaît pas? Pourquoi tu en es arrivé à le critiquer quoi?
Oui, d'accord. Alors c'est assez simple en fait. Bon, déjà au niveau de mon parcours, donc là j'ai 25 ans. Donc je suis ingénieur de formation. Là j'exerce un métier de développeur depuis à peu près un an et demi. Et donc je terminais ma formation à peu près fin 2011 et je commençais à écouter un peu l'actualité. J'étais très préoccupé en fait par tous ces problèmes économiques. Hein. On entend parler de partout et j'essayais de comprendre vraiment ce qui se passait. Alors j'étais embrouillé dans un débat avec capitalisme et compagnie, enfin plein de mots en isme qui finalement ne m'aidaient pas vraiment. Et puis je suis tombé sur le revenu de base en fait. Hein. C'est dans un article du Monde, un commentaire, et je suis tombé dessus. Et... Donc c'était un peu une petite révélation. Je suis passé par plein de phases de découverte, de la vidéo, des travaux de le docteur en revenu de base, comme tu avais dit. C'est Basquiat, je ne sais
ouais,
pas.
Ouais, Basquiat, ouais. Marc de Basquiat, ouais.
Voilà, Marc de Basquiat. Mm. Bon, et je suis tombé sur ses travaux, par exemple, enfin, plein de choses, et ça a tout chamboulé. Pour moi, c'était clairement, voilà, c'est l'idée clé, c'est génial. Petit à petit, en faisant mes recherches, bon, on tombe sur des contradictions. Oui, alors comment on finance ça? Ça a l'air compliqué, enfin moi, en tant que voilà quelqu'un qui étudie les systèmes et compagnie, enfin je me dis mais toute façon là, je veux dire on a des richesses, on en a énormément, c'est incroyable qu'on puisse pas financer un revenu de base, il y a un problème quoi, il y a une arnaque qui part. De fil en aiguille comme ça, j'en suis arrivé à étudier la monnaie, parce que effectivement quand on parle revenu de base, s'il y a un système sous-jacent et puis bon bah, c'est la monnaie, et c'est là qu'on commence un peu à identifier un petit peu les problèmes. Alors, c'était à l'aide notamment de Gérard Fouché, hein, qui a beaucoup écrit sur le sujet, qui a fait pas mal qui a rendu le sujet assez accessible. Je vois aussi André Jacolbeck, tout ça m'a pas mal aidé. Et puis notamment les vidéos, alors je pense qu'un peu comme tout le monde, de Paul Grignon, et puis quelques autres sur le net. Donc voilà, c'est comme ça que je suis un peu arrivé sur la monnaie, et là pareil, là on découvre comment ça fonctionne, et... les réserves fractionnaires et la monnaie crédit. Bon. Alors ça, au début, on ne sait pas trop comment prendre tout ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations à intégrer, mais assez vite, moi, quand je vois un système comme ça, ce que je vois d'abord, c'est que, d'ailleurs, Gérard Fouché en parle beaucoup, c'est un système qui est quand même instable, en fait, puisqu'on a des périodes comme ça d'inflation et de déflation, en fait, puisque c'est... la monnaie crédit engendre des phénomènes procycliques. Donc par exemple en immobilier on voit très bien, hein, c'est la nouvelle monnaie qui est créée au moment des emprunts et qui est injectée spécifiquement dans ce secteur de l'économie qui crée vraiment des économies de bulles, hein, c'est ça. Et à l'inverse, quand il y a des périodes d'un peu de dépression, on arrive dans des phénomènes de déflation. Hein. D'ailleurs, je voyais encore une vidéo ce midi de Philippe Béchade. Alors aujourd'hui, c'est vraiment lâché. Hein. En tout cas, je l'ai jamais vu comme ça. Il a l'air vraiment désabusé. Qui nous parle vraiment de déflation, hein, même pour la France. Le mot est lâché.
À noter quand même pour Philippe Béchade ou ces économistes-là, ils commencent à se rendre compte aujourd'hui du souci. Mais tant que ça allait bien pour eux, dans les années jusqu'aux années 2008, c'est-à-dire qu'ils vivaient de ça en fait, parce que c'est des gens qui ont vécu essentiellement leur carrière dans le milieu économique, dans le conseil
Oui.
économique, etc. Et tant que ça allait bien et tout, ils ne se posaient pas la question. C'est-à-dire que, évidemment, quand ça va bien pour soi, on se pose pas forcément eh bien, les bonnes questions de savoir si ce qu'on fait, finalement, est légitime ou pas. Et c'est quand, finalement, il y a un choc qu'on commence à d'abord à voir que les choses marchent plus comme on pensait qu'elles marchaient. C'est un premier pas. Et après, la deuxième étape, c'est d'essayer d'analyser. Mais finalement, bon, j'ai compris, ça marche pas bien maintenant. Mais si ça marche pas bien maintenant, est-ce que quand ça marchait hier, est-ce que hier c'était bien aussi? Est-ce que vraiment, est-ce qu'il n'y a pas une relation de cause à effet entre ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui finalement?
Oui, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, même, enfin, moi-même, je m'imagine bien que tant que les choses vont bien, je ne me pose pas de questions. En fait, je pense que c'est, enfin, je sais pas si c'est de la nature humaine ou quoi, mais en tout cas, on commence à se poser des questions quand ça va pas. Donc, bon, là-dessus, c'est effectivement, il se réveille peut-être. Bon, je trouve qu'il y a quand même encore, dans le discours dominant, on n'entend pas grand-chose hein, en critique. Hein, c'est bon. En tout cas, sur la monnaie. Alors bon, donc voilà, je disais que c'était instable. Je trouve aussi que c'est un système qui est complètement injuste au niveau de la création monétaire, puisqu'il n'y en a que quelques-uns qui en bénéficient, selon au bon vouloir des banques. Bon, ça, c'est un sacré souci, puisque finalement, c'est toujours les mêmes qui en bénéficient, quoi, parce que c'est ceux qui ont le plus d'argent qui peuvent encore plus emprunter. Enfin, c'est voilà, y a un vrai souci là-dessus, intenable à cause des intérêts manquants. On commence à éplucher ce sujet-là, hein, mais. Voilà, enfin, on voit souvent l'image comment on dit, du tapis roulant avec les gens qui tombent à la fin parce que voilà, ils ne peuvent plus courir. Moi, j'aime bien aussi comparer au jeu de chaise musicale. Voilà, on entend souvent dire oui, moi j'y arrive, donc toi aussi tu peux y arriver, il suffit de se bouger, tout ça. Mais non, quand un système est pensé pour qu'il y en ait qui perdent, on va finir par perdre. Hein. Donc, il y a de moins en moins de chaises, la musique. Limite, et jouer de plus en plus vite. Donc voilà, c'est un système vraiment qui est intenable. Et donc dangereux, parce qu'en plus, il y a des impacts sur l'environnement. Moi, je suis un peu horrifié. J'ai 25 ans, je débarque un peu, mais j'ai mis qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi ce bordel, plus ou moins? Parce que on est en train de tout détruire. Enfin, c'est grave. Et tout ça à cause d'une croissance perpétuelle qui est due au système monétaire quand même. Bon, voilà, je tombe là-dessus. Et puis, peut-être le plus grave encore, c'est moi ce qui me gêne le plus, c'est qu'en fait, ça détourne. Ce système monétaire détourne les hommes, détourne leur énergie pour des choses qui n'ont aucun intérêt finalement. C'est-à-dire que là, par exemple, je sais que moi ou Jibar ou d'autres développeurs, on essaie de se tourner vers d'autres systèmes monétaires. C'est quelque chose qui a du sens pour nous, c'est quelque chose qui est a priori utile. Il y a beaucoup de, enfin, comment dire, il y a beaucoup de travail qui n'est pas utile à la société, voire même qui n'a pas de sens. Mais on est quand même obligé de le faire parce que on est obligé de travailler pour ceux qui ont l'argent. Ça, c'est vraiment le point qui me gêne le plus parce que. On est contraint finalement de mettre notre énergie dans des choses qu'on ne souhaite pas forcément. Donc voilà, ça c'est, je dirais, le point gênant de ce système, même si tout le reste est aussi très important.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Donc déjà, oui, donc tu repères cette effectivement, comme tu l'as dit, cette dimension procyclique, cette dimension finalement d'auto-légitimité du système. Le système s'auto-légitime en fait. Ceux qui ont un peu de capital au départ vont avoir des crédits qui leur permettent bah, finalement de prendre possession de choses que ni le banquier ni lui d'ailleurs ne possédaient au départ, hein, c'est-à-dire qu'ils vont émettre du crédit pour s'approprier ces biens, qui leur permet d'avoir plus de revenus, et puis demain ils auront donc plus de crédits, etc. Et par contre, ceux qui ne jouent pas à cette mécanique entre guillemets frauduleuse, je ne suis même pas sûr que les guillemets soient de trop, eh bien eux, bien sûr, eh bien, ils doivent effectivement travailler pour ceux qui en ont de cette monnaie, s'ils veulent de cette monnaie. C'est-à-dire que donc on est devant finalement oui, un mécanisme mécaniquement pyramidal avec un centre d'émission. Les émetteurs de crédit et ceux qui empruntent en premier, avec l'émetteur du crédit en plus, avec un avantage énorme, puisqu'en plus, lui, il touche un intérêt. Mais celui qui est crédité en premier, il bénéficie aussi. C'est-à-dire que là, lui, il va pouvoir quand même aussi s'approprier ce qu'il estime bon pour lui en premier avant les autres. Donc il y a cette mécanique-là qui est toujours qui est perpétuelle, quoi.
Bon, encore, ce serait pas trop trop grave, entre guillemets, hein, s'il y avait une alternative de monnaie. C'est-à-dire que là, on est obligé de choisir ce système-là. Donc, c'est ça qui est très problématique pour moi. Enfin, je sais que j'aurais une autre monnaie disponible, par exemple, la dividende universelle, bah, évidemment, je me tournerais vers ça. Et d'ailleurs, la plupart des gens, probablement, verraient un système monétaire bénéfique pour eux, se tournerait vers ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est complètement bloqué parce qu'on n'a que ce système-là et on nous est imposé et on n'a pas vraiment de choix. Donc,
Alors il ne nous est pas forcément imposé puisque, bon, il existe, bon, on en parlera en deuxième partie, hein, mais il existe quand même des alternatives, mais justement on va en parler, elles sont peut-être pas suffisantes, sont peut-être pas bien pensées, ça suffit pas de dire ça, mais c'est pas forcément imposé, mais disons qu'il n'y a que lui qui est véritablement dominant, quoi. Donc ça, c'est un fait.
Quelles alternatives? Tu parles de Bitcoin, par exemple?
Non, mais oui, on verra en deuxième partie, mais on pourra parler des sels aussi. Bon, il y a tout un tas de choses qui sont développées parfois depuis longtemps, qui d'ailleurs continuent d'exister, etc. Mais bon, mais en tout cas, effectivement, il est dominant, donc tant qu'on se pose pas la question, d'abord on voit que lui, ça c'est un premier problème. Mais il n'est pas véritablement imposé, il y a la possibilité d'utiliser d'autres systèmes monétaires, il y a des règles à respecter, mais je veux dire, c'est tout à fait envisageable. Donc, alors, on poursuit sur la critique du système monétaire. Est-ce que tu as, comment t'en es arrivé donc à vouloir sortir de cette mécanique-là? Est-ce que tu as aussi analysé les cycles? On a beaucoup parlé des cycles aussi historiques de crise monétaire. On compare la crise actuelle à 1929. Je crois que maintenant même, on est arrivé à un tel niveau de recul que même pas mal de chercheurs remontent jusqu'à 1789, puisque là aussi il y a eu une crise monétaire, il y a les assignats, il y a une émission monétaire, il y a Napoléon qui fonde la Banque de France, donc on sent bien qu'à cette époque-là, il se crée des choses monétaires. Juste avant, pendant la royauté, il y avait le système de l'AF, avec la première, on commençait à les premières émissions de papier monnaie, ou d'action à l'époque, enfin il y avait un mélange entre les deux, et bon voilà, donc il y a eu aussi ce recul historique sur les problèmes. On a parlé aussi des problèmes de l'or, de l'or à la fin de la guerre de 14, l'Allemagne ne pouvait pas payer sa dette qu'on lui imposait à payer en or, etc. Bon voilà, donc il y a aussi un aspect historique, tu as creusé aussi cet aspect-là?
Alors creuser, je dirais pas ça, enfin honnêtement, hein, je suis pas un expert du tout, hein. J'ai analysé quand même un peu le système, surtout par les analyses des autres, en fait, j'ai recueilli ce qui était déjà écrit, puis sachant que, bon, bah, c'était un... Pour moi, c'était clair et net dès le départ, il fallait en changer, c'était du passé, bon. J'essaie de passer à autre chose, mais bon, j'ai quand même quelques remontées, notamment sur les assignats, je sais aussi pour 1930, je veux dire, tout ça, je sais que, par exemple, Jean-Baptiste Bersac, hein, qui a sorti son bouquin il n'y a pas longtemps, il en parle, donc... tout ça, bon, j'ai creusé un petit peu par là, quoi, mais pas plus que ça. Mais je vois bien qu'il y a un gros problème monétaire, il est là depuis longtemps. Hein, c'est juste qu'on retombe dedans parce que c'est des cycles. Hein, donc voilà. Enfin, j'ai pas plus étudié que ça, quoi.
D'accord. Et alors, quand tu as donc t'as vu que ça posait des problèmes, quand tu as vu ce problème de, déjà comme tu l'as dit, hein, t'as bien mis en évidence un problème de non-symétrie, d'asymétrie. Alors t'as une formation de scientifique, puisque si t'es développeur, tu sais au moins faire un peu d'algorithmique, un minimum. Donc forcément, si tu vois un problème qui est dû à une non-symétrie, une asymétrie, forcément tout de suite l'idée qui t'est venue à l'esprit, c'est la symétrie. Comment ça s'est passé?
Alors honnêtement, non, pas forcément. Enfin, c'est plus j'ai plus une pensée en système, et quand je vois que ça va pas, c'est un truc qui va pas marcher, ou qui crée des choses, des effets très indésirables, enfin c'est plus comme ça que je l'ai vu, moi. Alors après, j'ai quand même une certaine sensibilité vis-à-vis de la justice, et puis surtout de l'injustice, et quand je vois que on est tous aliéné par le système, bah ça me fout les boules, parce que je vois que mon temps de vie il est limité, et je vois qu'on est en train de me le voler, en fait, et puis voler dessus des autres. Enfin, je vois la misère partout, hein. C'est plus dans ce sens là que j'ai repéré la symétrie.
D'accord. Et comment tu es arrivé à visualiser, parce que si tu développes maintenant un système monétaire, on en parlera en seconde partie, mais comment t'es arrivé à visualiser le bon système monétaire, celui que tu veux mettre au point? Comment tu l'as deviné? Comment tu es arrivé?
Ah oui, alors disons que ça s'est passé dans ma découverte du revenu de base, en fait. Il y a un jour où je suis tombé sur la TRM, assez rapidement, en fait je l'ai écarté dans un premier temps, parce que je découvrais un peu la monnaie, tout ça, ça m'avait l'air d'être quelque chose donc d'assez complet, d'assez précis. Je savais pas si ça allait répondre à mes questions, donc j'avais un peu mis de côté. Et puis je crois que c'est en tombant après sur un épisode de Monnaie Libre, je crois, que j'ai commencé à découvrir OpenUDC en fait. Alors c'est vraiment en naviguant, hein, c'est voilà, j'ai découvert l'émission et puis j'ai découvert le projet qui lui parlait de la TRM. Et du coup, je me suis vraiment intéressé à ça. Et c'est là que j'ai essayé de te questionner un peu sur la TRM, parce que je comprenais l'idée. Je voulais voir s'il n'y avait pas une autre manière de faire. Bon, c'était pas du tout le cas d'ailleurs, mais donc j'ai compris qu'il y avait besoin d'une création perpétuelle de monnaie pour avoir un système équitable en tout cas. Voilà.
D'accord. Et quand tu as regardé la TRM, la théorie relative de la monnaie, donc ça t'a pas fait tilt tout de suite, t'as eu besoin d'explications complémentaires pour bien comprendre le mécanisme ou
disons que c'était juste le fait de créer de la monnaie perpétuellement, donc quantitativement la monnaie elle va infiniment, hein, et ça c'était un premier blocage, si tu veux. Surtout quand tu étudies la monnaie, on te parle beaucoup de monnaie fondante et compagnie. Et donc, je pense qu'il y a un petit blocage psychologique que moi j'ai fait et que je pense d'autres feront aussi, hein, qui est que les choses infinies comme ça, c'est pas naturel, je crois. Enfin, ouais. En tout cas, on est habitué à l'argent, tu sais, c'est la monnaie voilà, qui est limitée en quantité. Mmh. Et le fait de voir que la monnaie quantitativement sera infinie, ça gêne. Ça gêne, même si, in fine, quand tu étudies vraiment le truc, tu te dis, mais oui, c'est logique. Voilà. Mais il y a un premier blocage, voilà.
Oui, mais tu vois, ce blocage, je pense que c'est bien que tu le soulignes, effectivement, il est important. C'est ça qui, d'ailleurs, bloque tout le mécanisme économique dans sa plus grande partie. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi plusieurs posts sur Achille et la tortue, le fameux paradoxe des Grecs. Tu connais, hein, tu sais que Achille n'arrive jamais à rattraper la tortue, voilà, ou c'est pareil que la flèche de Zénon d'Élée. C'est la même problématique, c'est-à-dire on croit qu'il y a quelque chose d'infini parce qu'on ajoute, on ajoute, on ajoute, et on se dit mais comment il arrivera à rattraper la tortue, puisque à chaque fois qu'il rattrape la tortue, ben, comme elle avance aussi un peu, elle est un peu plus loin, donc il ne va jamais arriver à la rattraper. Et on se dit ben, c'est infini, il ne la rattrape pas, et pourtant ça ne colle pas avec la réalité. Et effectivement, c'est un peu la même idée, alors c'est un peu différent parce qu'on a l'impression là par contre qu'on va vraiment vers l'infini, puisqu'on rajoute un peu de monnaie à chaque unité de temps, et on se dit mais non, là par contre on converge pas, on va vers l'infini, mais non, mais c'est un faux débat, puisque il suffit de changer de référentiel. Si je compte maintenant mon unité monétaire en nombre de dividendes universels, eh bien il y en a toujours une quantité finie, une quantité limitée, donc en fait c'est une question de perception de la réalité, et il n'y a jamais d'infini, même quand on croit qu'il y a un infini. D'ailleurs, je vais donner une autre image, mais on connaît le plan euclidien, donc c'est plat, ça va vers l'infini de tous les côtés, bah, sauf qu'il existe une sphère qu'on appelle la sphère de Riemann, hein, qu'on peut mettre au centre de ce plan, qu'on pose sur le zéro du plan, une boule, et en fait chaque point de la boule a une image dans le plan, et tout point du plan a son image sur la boule. Ça veut dire que la boule, en fait, qui est quelque chose de fini, représente parfaitement quelque chose qui apparemment est infini. Voilà, donc ça veut dire toujours pareil, c'est que la notion d'infini, elle est aussi relative, on peut toujours projeter un infini dans quelque chose de fini. Voilà, donc là aussi, bien que quantitativement, effectivement, on ajoute des nombres, mais d'abord les nombres, ça pèse pas, hein, en économie, un nombre, qu'on écrive 1 ou 10 puissance 150, ça pèse pas très lourd en octets. Hein. et effectivement, en relatif, c'est fini. En nombre de dividendes universels, on a toujours une masse monétaire finie. Donc en fait, c'est une apparence de croissance. Et en fait, il n'y a pas de croissance. C'est-à-dire que même la notion de croissance, elle est erronée en fait à la base. D'ailleurs, on retrouve d'ailleurs cette erreur quand on interroge un économiste comme Delamarche ou ce genre de choses. Il croit que l'économie a une croissance au sens matériel ou énergétique du terme, ce qui est faux. Parce que le PIB ne mesure que des échanges monétaires, donc ça peut très bien se faire avec des choses immatérielles. Exemple, bah, tout ce qui peut s'acheter de façon immatérielle sur Internet, voilà. C'est pas forcément des biens matériels, ça peut être des leçons, ça peut être des vidéos, ça peut être n'importe quoi. Des programmes, s'abonner à un système de jeux vidéo, etc. Bon, mais c'est pas forcément matériel, ça pèse très peu d'énergie au final à faire tourner. Non, ce qu'on paye surtout, c'est C'est toute l'intelligence humaine qui sert à faire tourner ces mécanismes. Et ça, c'est pas forcément plus d'énergie, ici c'est plus d'information. Voilà, donc là effectivement, et ça c'est un gap difficile à passer pour des hommes qui ont vécu au XXe siècle, essentiellement, et même au XIXe encore plus, sur un paradigme qui était à 95% matériel. Voilà, c'est-à-dire qu'ils étaient à peine à essayer de dominer la matière, à essayer de se sortir un peu de. Du froid par le chauffage, de la mobilité par les moteurs à explosion, etc. Donc ils ne voyaient l'économie que par son aspect matériel. Or, on arrivait dans une économie où l'aspect immatériel commence à peser au moins autant, peut-être au moins autant que l'aspect matériel, si ce n'est plus. Bon, après, il faudra voir à quel moment ça va dépasser, mais voilà. Et donc là, à partir de là, la croissance peut très bien être infinie. Dans l'information, on peut inventer autant de théorèmes de maths qu'on veut et aller vers l'infini sans forcément qu'il y ait une croissance matérielle ou énergétique infinie. Voilà, donc il faut distinguer ces notions de monnaie d'un côté et de croissance matérielle ou énergétique de l'autre, qui n'est qu'une petite partie de l'économie, et on peut très bien croître sans croître de façon matérielle.
Oui, je suis tout à fait d'accord.
Voilà, donc, mais c'est quelque chose qui t'était pas clair donc au départ pour toi.
Non, 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 c'est pas.
D'accord. Alors donc, bon, mais très bien. Donc tu arrives à cette compréhension, donc via aussi un peu la théorie relative de la monnaie. Et alors, quand tu vois ça, tu rejoins le groupe OpenUDC un peu. Tu t'intéresses à ce projet en fait.
Ah, c'est ça. Donc, alors, je me souviens plus exactement des dates, hein, mais c'est donc courant 2012. Bah, d'ailleurs, oui, j'avais rejoint le groupe, mais alors surtout j'avais rencontré Janer et Jibar lors du hackathon 2012, donc chez Janer d'ailleurs, et du coup c'est là que j'ai vraiment je me suis peut-être le plus investi, puisque donc on a beaucoup discuté. Jibar nous a fait une présentation, enfin il n'y avait pas qu'à moi, il y avait même quelques invités, et du coup là j'ai comment dire, j'ai davantage vu ce que voulait faire Jibar, même si déjà avec les émissions de Monnaie Libre, j'avais eu un bon aperçu. Là, j'avais pu échanger avec. Et bon, c'est notamment là que j'ai vu que déjà OpenUDC était développé en C. Bon, alors là, c'est un peu plus technique, hein, mais c'est vrai que moi, ne connaissant pas ce langage, je ne pouvais pas forcément aider. Voilà, ça a été un premier point. Mais bon, j'ai découvert OpenUDC comme ça. Voilà. Et donc, oui, bah, c'est tout ce que je voulais dire, en fait.
D'accord. Bon, bah, très bien. Écoute, on va finir sur cette première partie. Pour annoncer quand même, en deuxième partie, on va aller maintenant vers ta monnaie, vers ton projet de monnaie Yukion. Yukon, j'arrive pas. Et on va parler dans une première. Enfin, d'abord, on parlera de Bitcoin. On parlera éventuellement de Cyclos, si tu connais, ou de d'autres systèmes de monnaie. Tu nous diras pourquoi une fois qu'on a compris, bon, que le système monétaire n'est pas, pourquoi ces autres monnaies te conviennent pas non plus. Et puis ensuite, on parlera de ta monnaie, bien sûr, pour finir, où tu expliqueras quel est son fondement, sa philosophie, en quoi elle se distingue. Voilà, donc on va faire une première pause. Est-ce que tu sais comment sont les monnaies, les musiques sur Monnaie Libre?
Alors là, au hasard, allez, elles sont libres?
Ouais, elles sont libres, exactement. Donc on se quitte d'abord, hein, quelques minutes pour une première pause musicale sur une musique libre, et on se rejoint juste après.
Hold it, it's got hoils of money.
Nous voici de retour dans Monnaie Libre, toujours avec Cédric Moreau. Salut Cédric encore.
Oui, bonjour Stéphane. Rebonjour à tous les nouveaux, voilà.
Voilà, donc on a dans la première partie, on a vu un peu ton parcours hein, par rapport à ce système monétaire que tu as compris comme étant source de problèmes, et puis ton parcours qui t'a amené à écouter, à voir l'argent de dette de Paul Grignon. On a parlé de Gérard Fouché qui t'a amené à réfléchir aussi le revenu de base de présenter sous la manière Marc de Basquiat, et puis finalement tu es arrivé à découvrir la théorie relative de la monnaie et donc à t'intéresser au projet Open UDC. Voilà où on en était. Alors bon, une fois qu'on a vu ça, bon, on voit quand même. Bon, t'es un peu, t'es jeune, t'es à 25 ans, donc il y a encore. Finalement, ça fait peu de temps que la crise a démarré, ça fait 6 ans, mais il y a 6 ans, t'étais étudiant, tu t'intéressais pas forcément à toutes ces problématiques. Mais alors, depuis, il y a des monnaies qui sont apparues, qu'on commence à connaître. On s'est intéressé beaucoup au système d'échanges locaux, au CEL. Je veux dire, c'est pas la première fois que lors des crises financières, on découvre que d'autres systèmes monétaires existent plus ou moins. Alors pourquoi tu t'es pas finalement dit je vais utiliser un système d'échange local près de chez moi, s'il y en a un, ou le Bitcoin, pourquoi pas, puisque maintenant il est actif et puis depuis quelques années quand même. Pourquoi pas le Bitcoin, ou pourquoi pas d'autres monnaies là qui commencent à émerger, pourquoi pas.
Alors c'est vrai que les systèmes d'échange locaux déjà, je ne connais pas très très bien. Mais déjà le nom local m'en dit assez long, c'est que c'est quelque chose qui est limité en fait. Et quand je vois les problèmes, ils sont globaux. Donc enfin, tu me diras, on peut toujours faire du local partout, mais je sais pas, j'ai pas forcément beaucoup étudié. Après, si dans un système d'échange locaux il y a les monnaies locales, alors je sais pas si c'est le cas.
Ouais, c'est ça.
Ouais, bah, si c'est les monnaies locales, étant donné qu'elles sont toujours basées sur le système existant, à savoir l'euro, enfin, je veux dire, ça sert à rien, enfin, entre guillemets, c'est pas que ça sert à rien, mais il n'y a pas de gros intérêt à prendre ça, c'est pas un vrai changement de système, c'est juste une substitution temporaire et, enfin, c'est pas une vraie solution, quoi, enfin, ouais. À mon point de vue.
Hein. Ouais, tout à fait, d'accord, donc t'as perçu que le design de la monnaie était comparable, en fait.
Bah oui, de toute façon, il s'adresse aux banques, alors, ouais. De toute façon,
mais alors concernant
la monnaie officielle, donc...
D'accord, et concernant le Bitcoin, alors pourquoi pas le Bitcoin ? Parce que lui, il se crée pas depuis un système bancaire sur un mode arbitraire. Lui, il est limité en quantité, et on peut pas tricher, on connaît la masse monétaire. Au moins, il a le grand mérite d'être transparent.
Oui, alors Bitcoin, quand même, c'est... on est dans Monnaie Libre, là, et on connaît... on critique quand même un peu Bitcoin, et bon, c'est ce que je vais faire aussi. Bon, maintenant, il faut lui reconnaître quand même ses grandes qualités. Hein, c'est déjà, il a montré la voie. Hein, il a montré que, d'une part, la monnaie n'était pas le monopole des États. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait créer soi-même. D'ailleurs, même Mérôme, avec sa monnaie, M l'a montré. Hein, la monnaie, c'est jamais qu'un accord hein, entre les humains, et on peut se mettre d'accord sur plein de choses. Hein. Et donc là, en l'occurrence, Bitcoin donc, nous a montré ça avec une monnaie vraiment décentralisée, en fait. C'est une monnaie cryptographique, et ça a le grand mérite d'avoir inspiré notamment OpenUTC, hein, puis bah, moi par la suite. Hein. C'est, puis de toute façon, il y a plein de monnaies qui sont basées sur Bitcoin maintenant. Donc il a au moins ce mérite-là. Bon, maintenant, pourquoi je ne l'utilise pas honnêtement, j'ai quand même j'ai été dubitatif quand j'ai appris Bitcoin. Je fais comment ça peut valoir quelque chose, enfin, au tout début, j'en ai entendu parler peut-être en 2010, quelque chose comme ça, donc je me suis posé des questions. Jamais utilisé parce qu'en fait je m'en méfiais, mettre de la valeur dedans, bon, j'hésitais, et puis bon, bah maintenant c'est vrai que quand je l'étudie, je me rends compte que quelque part j'ai bien fait, parce qu'en fait je n'en ai pas besoin déjà du Bitcoin, et en plus quand je vois donc son design qui, alors ça dépend toujours du point de vue hein, mais alors si moi étant donné ce qui m'intéresse c'est la monnaie, je me place en tant que je mets Bitcoin comme un système monétaire, je le trouve mauvais en fait, enfin injuste déjà vis-à-vis de la création monétaire, puisque donc d'une part donc on parle d'asymétrie monétaire dans l'espace, parce que quand il y a des bitcoins de créer, c'est pas pour tout le monde en même temps hein. C'est à un instant T, il y a qu'une seule personne qui émet un bitcoin, et puis les autres peut-être ils n'en créeront jamais en fait hein. C'est vraiment sélectif à un moment donné. Et en plus, dans le temps, puisque c'est limité à 21 millions, donc une grande chance que moi, par exemple, même si je mettais ma machine pour miner du Bitcoin, j'en aurais jamais. Hein. Donc ça c'est un gros problème, puisque, bon, déjà, vis-à-vis de la limite, bon, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le débat, mais un système qui est limité comme ça peut que être une réserve de valeur, en fait. Hein. Les besoins de l'économie sont très divers à des instants différents, et notamment si on essaie d'avoir une économie en croissance, enfin, si on veut faire plus d'échanges ou matérialiser, ne serait-ce que matérialiser d'autres échanges qui n'existaient pas avant, faute de monnaie, ben on peut pas les faire parce qu'on risque de manquer à un moment. Donc ça, pour moi, c'est un vrai problème. Pour moi, ça vaut pas le coup que je rentre dans le système, puisqu'en fait, c'est ceux qui sont rentrés avant qui ont eu toute la monnaie, plus ou moins. Bon, là, il y en a la moitié déjà de passé, mais grosso modo, il n'y en a que quelques-uns qui ont tout, hein. Ça, mais c'est pas étonnant. Et bah, moi, je trouve ça injuste. J'arrive ensuite, et qu'est-ce qui se passe? Et bah, il faut que j'obtienne la monnaie auprès de ceux qui l'ont, voilà, qui l'ont déjà eu. Et eux, ils l'ont déjà eu sans effort, sans avoir à débourser 1000 euros pour avoir la monnaie, quoi. Donc, il faut que j'investisse beaucoup de temps à moi pour obtenir un 1 euro Bitcoin, alors qu'au début, eux, les premiers entrants, bah, ils ont fait ça comme ça, quoi.
Ouais,
Voilà,
donc
donc.
t'as perçu la non-symétrie dans le temps, et en plus, comme tu es assez jeune, effectivement, tu le vois directement, puisque là, tu arrives au moment où la quasi-totalité des bitcoins est déjà générée, hein, on a déjà dépassé la moitié. Et quand on a dépassé la moitié, ça veut dire qu'on a généré quasiment tout, quoi, hein. On
Oui.
peut plus que doubler la masse, au pire, hein. Au début, on pouvait aller jusqu'à 100 fois, 1000 fois la masse, tant qu'on n'en avait pas beaucoup de générés. Maintenant, c'est fini. On arrive au bout, donc, et toi, tu vois tout de suite le problème, évidemment. Alors, quand on se pose cette question, il faut pas la regarder que de son propre point de vue, je pense, c'est ça qui est important, parce que si on se dit, ben moi, finalement, quand j'arrive, que ce soit d'ailleurs dans l'euro, que ce soit en Bitcoin, mais ben moi, c'est fini, pour moi, il n'y en a plus, il n'y a plus ma part. C'est-à-dire, si j'en veux, ben, je dois effectivement, comme tu disais, si j'en veux, aller travailler pour ceux qui en ont. Ça, c'est pas un problème pour des valeurs, mais c'est un problème pour la monnaie. Parce que si on veut une monnaie commune, comment une monnaie commune, effectivement, peut exister si certains ont le droit d'avoir créé la monnaie et pas les autres? Donc c'est une valeur peut-être, mais pas une monnaie. Et après, on se dit, ben, il faudrait que j'adopte une monnaie qui fasse que ceux qui arrivent après moi, et il y en a tous les ans, des gens de 20 ans, il y en a tous les ans, c'est jamais les mêmes, il y en a des nouveaux, et il faudrait qu'eux-mêmes, ils aient une part, effectivement, comparable, parce que si moi je vois qu'il y a un problème pour moi, ça va forcément être un problème pour les autres aussi.
Oui, c'est ça. C'est moi, c'est vraiment le point de vue monétaire que je prends, hein, parce qu'en ça, qu'en tant que valeur, bah, limite, chacun, mais, enfin, voilà, le jugement de valeur, c'est un point de vue purement relatif, quoi. Donc, moi, comme tu dis souvent à propos de l'or, enfin, moi, c'est vrai que j'en ai vraiment l'or. Je ne saurais quoi en faire, hein, franchement. Ça n'a pas de valeur pour moi. Ça en a pour les autres, mais du coup, ça en a pour moi. Mais moi, personnellement, ça n'a aucune valeur, quoi. Donc, là, le Bitcoin, ça peut être exactement pareil, hein, chacun. Peut voir une valeur dans le Bitcoin. Bon.
Et donc ça c'est important parce que ça il faut bien distinguer effectivement la notion de valeur économique qui est un choix personnel. Et si plusieurs personnes s'accordent sur le prix d'une maison, ben, ça ne veut pas dire que tous les autres seraient prêts à y mettre ce prix-là. Et la notion de valeur économique c'est une chose et la notion de monnaie c'est autre chose parce que une monnaie c'est c'est une valeur commune et donc ne peut pas être une valeur commune n'importe quoi. Commune ça suppose un minimum d'accord. Et un minimum de design qui intègre un principe de symétrie minimum, quel qu'il soit, quoi. Donc, d'accord. Alors, donc ok. Donc, tu retombes effectivement sur les analyses de la théorème. Alors, maintenant, on va arriver à ton projet monétaire. Donc, tu vas nous détailler. Alors, bon, comme tu l'as dit, OpenUDC, c'était plutôt écrit en C. Donc, ça te gênait puisque tu n'étais pas un spécialiste de ce langage. Et donc tu t'es lancé hein, dans ce projet de monnaie sur lequel tu as déjà avancé pas mal, tu as fait quelque chose de hein, qui semble assez bien monté pour l'instant, c'est sur GitHub, on peut voir le code, etc. Et donc YouCoin, alors donc c'est quoi YouCoin, en quoi c'est pareil qu'OpenUDC, en quoi ça diffère, quel est son principe, comment la monnaie se crée, quel langage finalement, hein, puisque tu parlais de langage, quel langage tu utilises, et voilà, comment tu vois ce projet?
Alors, c'est vrai que déjà, juste pour faire le parallèle avec OpenUDC, donc j'ai dit que c'est vrai qu'il y avait le langage, hein, qui pesait lourd, mais c'est vrai que bah, j'avais aussi ma propre réflexion, j'avais ma propre approche du problème. Alors OpenUDC donnait son quelque part son analyse, sa solution. Alors moi j'essayais quand même de la questionner et bah, j'avais envie aussi d'essayer mes propres idées quelque part. Et donc limite le fait que ce soit en C, c'est un argument de plus pour moi pour essayer mes propres idées. Alors c'est pour ça que j'ai lancé YouCoin. Donc alors quelle était l'idée de base? C'est que bon déjà je ne voulais pas développer pour OpenJC parce que je voulais utiliser mes propres idées, mais alors le fondement, vraiment la philosophie qu'il y a derrière, le cheminement, c'est on a fait le diagnostic de la monnaie actuelle, hein, on voit que voilà le système est instable, il est dangereux, ça va pas. Le Bitcoin, c'est bien, mais il y a la symétrie. Et puis ça c'est gênant. Alors comment est-ce qu'on peut faire quoi? Bon, OpenJC a montré un peu la voie aussi. Moi je vais faire mon truc. Comment est-ce qu'on peut faire? Enfin, moi je suis gêné de voir par exemple que on a des gros problèmes. Genre par exemple dans les années 30, c'est vrai qu'on avait on avait la production, mais on n'avait pas l'argent et ça générait des crises pas possibles. Mais est-ce qu'on peut pas tout simplement se mettre d'accord sur tiens lui il a tel droit à tant d'argent puisque voilà on crée une part de monnaie chacun, lui il a tant d'argent sur son compte, on sait où c'est, on se met d'accord ensemble sur où est l'argent, comment c'est stocké machin, et je veux dire contrairement à Bitcoin c'est pas de la défiance la base de YouCoin, c'est plus on se met d'accord, on se fait plus ou moins confiance. Et on met un système décentralisé selon nos règles, et puis voilà, ça devrait marcher, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se mettre d'accord, en fait. Voilà, donc OpenJC, plus ou moins, c'est la même chose, en fait. C'est, on se rejoint vraiment sur beaucoup de points, de toute façon, ça m'a inspiré aussi, donc c'est logique. Alors, comment ça marche, YouCoin? Alors déjà, juste un petit peu de terminologie, et puis... le mot YouCoin, alors you comme you en anglais, tu, vous faites la monnaie YouCoin. Alors l'idée c'est que c'est un projet, c'est un projet logiciel donc qui regroupe le logiciel mais aussi son protocole. Voilà, comme OpenJC de toute manière, hein, c'est la même idée. Alors YouCoin définit, enfin je définis le protocole monétaire, un ensemble de messages monétaires, ça c'est la base du logiciel, qui assemblés entre eux permettent de décrire un système monétaire. Alors pour pas que ce soit trop abstrait, je vais rentrer tout de suite dans le vif. Le protocole monétaire il n'est pas compliqué, il y a trois messages de base qui sont les clés numériques. Donc, comme dans OpenJC, basé sur OpenPGP.
Donc ça, c'est les clés numériques, ça permet d'identifier les individus qui font partie du système monétaire, hein, c'est ça?
Voilà, les individus, alors même pas que les individus en l'occurrence, hein, c'est tout le monde, c'est pour donner effectivement une identité, individu ou non, et l'authentifier, ça c'est hyper important, c'est de savoir qui dit quoi, et pouvoir l'attester de manière, presque juridique quoi, c'est la signature numérique c'est quasiment infalsifiable, quasiment, voilà, c'est en tout cas très très difficile, et donc on peut raisonnablement penser que voilà, telle donnée qui a été signée, on peut savoir qui et dire oui tu l'as fait, voilà, donc ça c'est très important, les clés numériques, de toute façon c'est la base des monnaies cryptographiques en fait, hein, c'est surtout la signature qui est importante. Voilà, donc authentifier les acteurs, plus ou moins. Un deuxième document qui est, alors j'appelle ça les avenants monétaires. Une suite d'avenants formant un contrat monétaire. Voilà, c'est dans un avenant, c'est à cet endroit-là qu'on marque qui sont les membres de la monnaie, quelle est la communauté monétaire, qui sont les votants. Il y a une notion de vote que je mets dans le logiciel. Et quel est le dividende universel qui est accepté.
Donc il n'est pas prédéterminé, ce dividende, il peut varier dans le temps.
Voilà, donc c'est-à-dire que chaque avenant monétaire est émis à un instant donné. Voilà. Donc c'est. Par exemple, il y aura l'avenant 0 qui dira il y a tel membre à ce moment-là. Pour un avenant donné, on connaît la communauté monétaire entière. On sait qui est dans la communauté. Dans un avenant, on va aussi marquer un montant de dividendes universels. C'est pas un montant qui est récurrent, c'est on fixe un montant qui est versé à tout le monde.
Ouais, d'accord.
Voilà, donc c'est l'idée, c'est ça. C'est régulièrement, la communauté monétaire va émettre des avenants disant quels sont les nouveaux membres, quels sont les nouveaux votants, quels sont ceux qui s'en vont, tout simplement. Voilà, ce genre de choses. C'est vraiment un contrat monétaire qui est là-dessus, matérialisé par des avenants. Alors, je sais pas si tu l'avais étudié déjà un petit peu avant, parce que c'est pas forcément évident de comprendre. Enfin, c'est pas difficile, mais voilà, faut essayer de se mettre dans mes idées. Alors, c'est pas.
Bah, disons qu'il y a il y a une problématique. Il y a deux choix en fait hein, pour avoir une monnaie symétrique. Il y a deux façons de fonctionner. Il y a la méthode algorithmique ou la méthode vérification humaine. Donc dans Bitcoin, c'est que algorithmique. Alors ça a un grand avantage la méthode algorithmique puisque une fois que l'algorithme est connu, bien sûr, eh bien la monnaie se gère toute seule. Elle fonctionne selon des règles que tout le monde connaît et donc on les accepte en intégrant le système monétaire. Simplement, c'est la procédure d'acceptation. Et comme c'est pas modifiable et comme c'est clair au début puisque le logiciel est libre, donc le code est ouvert, donc chacun, même si c'est que les développeurs, c'est pas grave, ils peuvent traduire pour ceux qui ne le sont pas, mais bon, la règle monétaire elle est connue pour le Bitcoin, on n'est pas obligé de connaître le code du Bitcoin pour savoir qu'il y en aura 21 millions et puis point barre, il n'y en aura pas plus. Donc c'est pas difficile à comprendre. Donc, et la deuxième solution, évidemment, c'est une solution de dire bon, moi j'ai pas l'algorithme pour dire je reconnais les individus puisqu'il peut y en avoir plus demain que hier, c'est compliqué, etc. Et bon, effectivement, mettre au point un algorithme de ce type-là qui tient compte d'une toile de confiance qui bouge, hein, et puis il y a les morts aussi, les morts qui sont remplacés par les nouveau-nés.
Oui, bien sûr.
Donc c'est une toile de confiance qui, de façon forcée, bougera de toute façon. Je fais pas un algorithme, mais je demande à des individus de la communauté de vérifier que le dividende universel calculé est le bon. Maintenant, est-ce que cette règle la problématique après qui va se poser, c'est... On peut faire comme ça, bien sûr. Bon, c'est moins sûr qu'un algorithme parce que ça pourrait être modifié déjà. Donc ça veut dire que si des gens ont un avantage monétaire à un moment donné et qu'il y a un vote requis pour bouger ou pas le dividende universel, ils pourraient réduire le dividende universel pour garder leur avantage, par exemple. Ou inversement, s'il y a des gens qui ont perdu parce qu'ils ont fait des mauvais choix économiques, non pas des mauvais choix monétaires, mais ils pourraient vouloir augmenter le dividende universel à leur avantage au détriment de ceux qui ont de l'épargne. Donc là, on est dans une problématique qui devient pénible parce que c'est plus, on n'est plus dans la symétrie temporelle. On brise la symétrie temporelle. Mmh. Et enfin, sinon, il y a une troisième option qui peut quand même se passer d'algorithme, c'est de dire bon, la règle elle est connue, hein, on la change pas, elle change pas. On demande juste à des membres de vérifier que le dividende calculé est correct. Voilà. Donc ça c'est un troisième point. Évidemment, la meilleure solution c'est l'algorithme. Parce que tout procédé qui va passer par des validations humaines est sujet d'avoir des pressions, de la corruption, etc. Parce que ceux qui ont beaucoup de monnaie peuvent payer les électeurs ou ceux qui décident pour aller dans le sens qui les arrange. Donc en fait, voilà, donc tout ça est extrêmement risqué et n'est pas du tout conforme à la TRM. Je veux dire, ça faut bien comprendre ça, c'est que si le dividende est bougé, c'est pas conforme à la TRM. Après, si la communauté économique est consciente et fait... et valide à chaque fois le bon dividende universel, ça assure bien une symétrie temporelle, hein, même s'il y a des petites variations, mais qu'elles sont dues au fait que la communauté augmente ou diminue, bon, des choses acceptables qui sont réfléchies, on fait bien attention à assurer la symétrie dans le temps, bon, mais ça marche, si ça marche, ça marche, il n'y a rien à dire, mais c'est risqué, puisque l'erreur est toujours humaine, comme on dit souvent.
Alors moi, honnêtement, je nuancerais beaucoup, parce que même dans Bitcoin, on peut croire que c'est un algorithme, mais... Pas vraiment, en fait, puisque l'algorithme n'est jamais que géré par des humains derrière qui mettent en place les machines pour avoir cet algorithme. Mais si demain, enfin, de toute façon, d'ailleurs, c'est même assez visible, hein, il y a des groupes dans Bitcoin qui s'occupent de gérer la monnaie, en fait, il y a des grands conglomérats d'ordinateurs, en fait. Et c'est eux qui décident de si oui ou non la monnaie sera créée ou pas. Enfin, comme c'est la puissance de calcul, c'est celui qui possède la puissance de calcul qui va pouvoir choisir ou non d'accepter telle transaction et notamment celle de création monétaire. En fait, ils se mettent une limite à 21 millions, c'est jamais que parce que les humains l'acceptent qui sont derrière. Mais s'ils le voulaient, ils pourraient le changer. Hein.
Non, l'algorithme n'est pas modifiable. Hein.
Bah, l'algorithme, si, puisque en fait, l'algorithme, il est écrit, mais il est implémenté par quelqu'un. C'est bien des programmes informatiques qui sont derrière, et le code, il est changeable. Si demain, d'ailleurs, c'est possible déjà de le faire. Bon, si tu le fais, en fait, tu vas créer une branche dans la monnaie Bitcoin. Tu seras probablement tout seul à le faire. Bon, tes Bitcoins ne seront pas forcément reconnus. Mais ça, c'est parce que la branche, elle montera pas assez vite, en fait. Mais si tu as la puissance nécessaire, tu peux changer la limite de Bitcoin, en fait.
D'accord.
Puisque tu as la puissance de calcul qui permet de décider.
D'accord.
La puissance qui permet de décider, en fait.
D'accord, d'accord. D'accord. Mais on pourrait imaginer un algorithme qui lui, ne permette pas la modification. Mais c'est vrai que c'est difficile. En fait, in fine, de toute façon, comme ça passe par des individus qui font tourner des machines, c'est sûr que on peut pas empêcher de façon absolue les hommes de modifier le système.
Bah, oui, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui c'est bien les humains qui sont derrière à chaque fois. Hein, donc,
d'accord.
Même là, quand on parle d'algorithme, de toute façon, les humains qui sont derrière, c'est eux qui décident. Hein. Si demain tout le monde arrête de faire tourner Bitcoin, il n'y en a plus. Hein.
Ouais, oui, c'est
on
sûr.
Change l'algorithme. Enfin, ouais. Regarde, il y a plein d'autres monnaies Bitcoin, il y a des Litecoin et compagnie, c'est bien ça, hein, c'est qu'ils ont ils ont changé l'algorithme, mais surtout ils ont implémenté le changement d'algorithme.
Oui, et puis surtout ils ont quitté Bitcoin, en fait, ou en tout cas ils l'ont délaissé pour autre chose, et ça on peut pas bien sûr, bien sûr, ça c'est très important de comprendre que le choix du système monétaire s'impose pas, on est d'accord.
Oui,
d'accord, donc c'est
pour revenir à mon idée, donc avec les avenants, où on marque la communauté, si toute la communauté finalement vote toujours pour le même avenant, enfin pour le même montant de dividendes universels, parce qu'on s'est mis d'accord, il n'y aura pas vraiment de problème, puisque tu sais, c'est des phénomènes qui sont quand même très inertiels, en fait. Et quand tu commences à avoir une communauté qui vote systématiquement tel dividende parce qu'il a été calculé, parce qu'on s'est mis d'accord, même si quelqu'un essaye de voter différemment, il va être tout seul, et ça fera comme dans Bitcoin. Si tu essaies de changer tout seul, ça ne fera rien. Ça ne fera absolument rien. L'impact sera nul.
Ouais.
Donc, tu vois ce que je veux dire?
Tout à fait, oui, non, mais de toute façon, comme je dis, y a deux méthodes, et les deux méthodes, pour moi, elles sont, je sais pas laquelle est la meilleure, j'en sais rien. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai précisé plusieurs fois, quand j'ai écrit la théorie relative de la monnaie, ou que j'ai expliqué, etc., j'ai dit, bon, la théorie relative de la monnaie dit ce que doit être une monnaie libre, si on veut respecter les symétries spatiales et temporelles, on va assurer qu'aucun homme n'est privilégié devant la création monétaire, etc., etc. Bon, bref, on fait les calculs, parce que c'est des calculs, hein, c'est un calcul d'isotropie, hein, d'homogénéité, hein, tout simplement, hein. Donc on fait les calculs, on obtient les bonnes valeurs, on sait à peu près ce que ça doit être, on a une fourchette, hein, acceptable, bon, mais on a la valeur acceptable. Bon, eh bien, une fois qu'on a dit ça, toute implémentation de ça, l'ATRM n'a rien à dire, elle ne sait pas. Je veux dire, c'est pas le but. L'ATRM ne donne que le design d'une monnaie libre, elle ne dit pas comment concrètement je la mets en œuvre. Par contre, quand on a bien compris une monnaie libre, on peut la mettre en œuvre, soit algorithmiquement, soit par contrat. Ton système est un système par contrat. On peut même penser que l'intégration dans un système monétaire implique l'acceptation du contrat. J'ai dit, j'accepte que le contrat c'est celui-là, ce qui m'empêche pas de sortir demain, mais voilà, le contrat c'est celui-là, donc il n'est pas modifiable, donc voilà,
c'est toute l'idée, c'est qu'en fait, enfin, ce que j'ai voulu matérialiser à travers ce contrat monétaire, et ce système de vote, hein, parce que j'ai longtemps hésité, en fait, je suis passé par plein de phases, hein, mais je me suis arrêté là-dessus, parce qu'en fait, même si on le voit pas forcément dans Bitcoin, il y a bien un système de vote. Puisque ce sont bien les machines qui disent si oui ou non la transaction est valide et compagnie. Il y a bien un vote, il n'est pas aussi explicite, mais il y en a un. Et là, de toute façon, que je le veuille ou non, je ne pourrais pas imposer telle valeur ou quoi que ce soit. Enfin, en fait, il y a toujours l'homme qui sera derrière à décider. Donc je me suis dit, même si moi, ce que je voulais, c'était faire un système à dividende universel, voilà, avec telle valeur, enfin, dans ma tête, c'était très clair. Je ne peux pas l'imposer, voilà, de toute façon. Donc, voilà, c'est clair. C'est pour moi, c'est un fait, et donc autant le matérialiser clairement dans le contrat. Voilà, c'était l'idée.
D'accord.
Alors, là, on était sur le contrat monétaire parce que je vais peut-être aller comme vers la suite. Le dernier document, qui sont les transactions. Donc, quand dans le contrat on vote un dividende universel. Ça ne crée pas l'argent tout de suite. ce sont bien les acteurs eux-mêmes, les membres de la communauté qui, au moment où l'avenant est voté par suffisamment de membres, au moment où il est voté par suffisamment de membres, alors les personnes peuvent créer de la monnaie sur justification de cet avenant, en fait.
D'accord. Alors à noter que d'un point de vue technique, pour éclairer nos auditeurs, Cédric, tu m'arrêtes si je me trompe, mais le système Ucoin, ah, je vais pas y arriver, Ucoin, comme OpenUDC, il est P2P décentralisé, et quand on parle de vote ici, on parle d'action par clé d'identification depuis sa machine, et qu'il n'y a pas de centre d'enregistrement, ce genre de choses.
Tout à fait, c'est vraiment complètement décentralisé, d'ailleurs, mais je pense que je vais éclairer juste après en donnant une vision un peu plus générale.
Oui, oui. Donc c'est important de le dire hein, pour ceux qui nous écoutent, parce que quand on pense vote, quand on pense forcément, on se dit dans la tête, on se dit la mairie avec le centre de vote, et puis c'est dépouillé. Alors qu'en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est un système informatique où chacun pèse autant que les autres par le fait d'être membre de la communauté, d'être monétaire, d'être membre de la monnaie commune, de cette monnaie commune, d'être co-créateur de cette monnaie. On est identifié et on a le même poids de décisionnel, tant au niveau des échanges économiques que de la validation du système, puisque là il s'agit d'une validation par vote. Hein. Voilà. Donc très bien. Alors ensuite.
Alors donc ça c'était c'est la base. Voilà, ça c'est les trois documents vraiment monétaires. C'est ça. C'est les clés numériques, les avenants et les transactions. C'est ici, juste avec ça, on arrive à créer un système monétaire. Voilà. Après, c'est un système en peer-to-peer, donc il y a un réseau. Cette notion de réseau, elle est un petit peu au-dessus. Alors là, on a quelques documents, mais alors là, je ne vais pas trop en parler parce que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Mais bon, voilà, il y a un réseau de pair à pair qui est lui aussi authentifié, comme dans OpenUDC d'ailleurs. C'est-à-dire que chaque on a un ensemble de nœuds hein, du réseau qui ont chacun. Alors c'est là que ça devrait être le plus clair, c'est que chaque nœud a sa propre vision. De l'état monétaire, en fait. C'est chaque nœud, tous les nœuds, c'est autant de points de vue monétaires. Alors, comment est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord? C'est qu'en fait, chaque nœud a été initialisé avec un contrat commun, si tu veux, signé par des clés qu'on va définir comme principales, initiales, voilà. Et donc, à force d'intégrer des nouveaux membres, on va intégrer des nouvelles clés qui vont, elles, pouvoir signer ce contrat. Donc, tu vois, c'est chaque nœud va accepter ou non des avenants selon qu'ils sont signés ou non par ceux qui font partie de la communauté.
Oui.
Tu vois, donc, on a bien chaque nœud qui a sa propre vision du contrat monétaire et donc des transactions potentielles. Voilà.
D'accord.
Et donc, toute l'idée, c'est que les transactions, en fait... Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que, les transactions, moi ce que je veux, c'est un système qui soit potentiellement à échelle humaine, hein, donc mondiale. Je ne peux pas gérer, je ne veux pas avoir un réseau qui gère systématiquement toute transaction, parce que c'est si on a des millions de transactions à la seconde, je veux dire, il y a la moitié des PC du monde qui ne suivront pas, c'est même pas possible, à mon avis, c'est techniquement impossible actuellement. Et donc, ce que je veux, c'est que finalement, les transactions soient réparties selon le bon vouloir des acteurs économiques. Et donc, chaque nœud peut héberger les transactions qu'il désire. Voilà. Et chaque personne peut envoyer ses transactions sur tel ou tel nœud, selon qu'il a confiance ou pas, dans ce nœud.
Ouais, d'accord.
Voilà toute l'idée. Donc, chaque nœud est un point de vue monétaire qui héberge telle transaction, les transactions de telle personne, de telle autre...
C'est un peu pour on peut donner une image de cette histoire là c'est un peu comme les trackers sur BitTorrent. Les trackers sont à la fois des endroits où on trouve des torrents, des fichiers torrents, et qui en même temps aussi sont des points qui permettent de se connecter à l'ensemble du réseau.
Il n'y a pas de les nœuds ne sont pas des super nœuds entre guillemets, c'est pas des points qu'on peut attaquer et qui vont détruire tout le réseau, en fait. Hein. L'idée, c'est que... ce qu'il ne faudrait pas faire, parce que ça, c'est le logiciel, mais après, que les hommes vont vraiment en faire, ça c'est autre chose, hein, mais si on essaie de concentrer toutes les transactions sur quelques nœuds, ça va être dangereux, parce que du coup ils seront sujets à des attaques ou quoi que ce soit, ou à des, tout simplement à des pannes, et du coup ça pourrait être bloquant. Donc toute l'idée c'est de que la communauté tente de répartir ces transactions de manière à pas être bloquée, quoi.
D'accord.
Un peu comme on choisit sa banque, voilà, moi par exemple, si j'ai pas confiance dans la Société Générale, bah, je vais essayer d'aller vers une autre banque que je considère comme moins risquée, enfin moins sujette à des attaques, ce genre de choses.
Oui. Voilà,
donc on a le choix d'héberger ces transactions où on veut.
D'accord. Alors, on va maintenant rentrer un peu dans les choses un peu plus générales. Alors, tu parlais de langage, tu as toujours pas dit. Alors, c'est quel langage que tu as choisi ?
Alors, c'est du JavaScript. JavaScript côté serveur. Alors, c'est un peu à la mode en ce moment. C'est un moteur d'exécution qui s'appelle Node.js. Node.js.
D'accord.
Voilà, c'est quelque chose qui a été inventé il n'y a pas très très longtemps pour régler. Grosso modo, hein, c'est pour avoir des applications efficaces dès lors qu'il y a des opérations de lecture-écriture. Typiquement, les applications réseau seront très efficaces avec Node.js.
D'accord.
Donc le langage sous-jacent, c'est JavaScript.
D'accord. Alors, donc, résumons, on a OpenPGP, donc ça c'est quelque chose qui existe déjà, donc c'est un peu la même structure qu'OpenUDC de ce point de vue-là, au niveau contrat monétaire, etc., ça ressemble beaucoup aussi. Alors, JavaScript pour la partie nœud, et alors t'as un client aussi, comment ça fonctionne ?
Oui, alors du coup, j'ai développé deux clients, en fait, c'est vraiment plus pour l'exemple, hein, parce que c'est pas du tout pratique, hein. Donc là clairement je sais pas vraiment à qui s'adresse le plus l'émission, mais s'il y a des gens qui ne sont pas vraiment développeurs ou bidouilleurs, ça sert à rien d'essayer de les utiliser, parce que c'est pas accessible encore, quoi. C'est vraiment plus ou moins des prototypes. Alors j'ai fait deux clients, un client donc en ligne de commande qui permet lui de faire d'interagir avec un nœud. Avec un nœud ou même plusieurs, hein. Il suffit de donner un autre identifiant de nœud, et on peut dialoguer avec n'importe lequel, hein. Ils ont toutes la même interface, si tu veux, de communication.
D'accord.
Et avec ce client-là, tu peux voter des avenants monétaires, tu peux envoyer ta clé sur les serveurs, et surtout, tu peux, une fois que les avenants ont été votés et que tes dividendes ont été votés, tu peux émettre ta monnaie. Tu peux l'émettre, tu peux la transférer. Enfin voilà, tu peux utiliser. En fait, les nœuds et le client sont déjà exploitables, en fait.
Alors, c'est comme dans OpenUDC, les unités monétaires sont signées par les clés.
Ah oui, tout à fait, oui, c'est ça. Oui.
D'accord.
Oui, c'est-à-dire qu'à tout moment, sur n'importe quel nœud, tu peux vérifier l'état du contrat, tu peux vérifier la communauté, qu'elle correspond bien, et tu peux à chaque fois identifier quel est l'émetteur de la monnaie. Dans Ucoin, en fait, c'est des pièces, hein, des pièces virtuelles. Hein. Donc, une pièce est émise par quelqu'un et elle a un numéro. Elle a, son identifiant, c'est la clé qui l'a émise plus un numéro d'incrément.
D'accord.
Ça suffit à savoir, à identifier la pièce.
D'accord. Et pour la partie cliente, c'est quel langage tu vas pas parler de?
Alors là, c'est toujours un peu de JavaScript, mais aussi du Shell. Mais c'est anecdotique, hein, parce que ça, c'est complètement sujet à changement. Il y a pas beaucoup de lignes de code. C'est histoire d'avoir un exemple pour d'éventuels développeurs ou même les premiers utilisateurs.
D'accord. Donc c'est bien parce que tu as donné, hein, je pense, les grandes lignes. Hein. Bon, on retrouve effectivement, comme tu disais, hein, c'est l'architecture générale d'OpenUDC avec des changements au niveau du langage et quelques petites peut-être améliorations pas améliorations, j'ai pas envie de dire ça, mais quelques changements plutôt.
Oui, oui.
Voilà, c'est neutre, changement de définition de certains points. D'accord. Alors
j'avais un deuxième point à donner, c'est qu'il y a, donc il y a ce client-là, mais il y en a un autre aussi.
Oui.
Alors pour le coup, c'est plus une interface web, donc un petit site web, une application web plus précisément, qui te permet de connecter un nœud et d'en voir l'état, en fait, de pouvoir naviguer dans un nœud pour voir les données qu'il a, quoi. Donc là, par exemple, peut-être qu'on donnera le lien lors de la publication de l'épisode de Monnaie Libre, hein, mais si tu vas sur ucoin.twist.fr, alors c'est un peu dur à répliquer, mais tu vois l'application qui tourne et qui te montre ce que le nœud qui est chez moi a comme données. Donc on a déjà un petit contrat monétaire de test, voilà, et avec des membres dedans, et donc tu peux naviguer dans les données du nœud. C'est juste, alors c'est pas quelque chose qui est voué à exister longtemps, hein, c'est juste pour l'exemple, encore une fois, de comment exploiter l'API des nœuds.
D'accord. D'accord. Donc alors, bon, je crois qu'on a bien fait le tour, hein, au niveau technique, etc. Alors moi, j'ai envie de poser d'autres questions sur ce projet pour terminer. Bon, ça en est où ? Est-ce que tu as un blog où tu vas mettre des publications ? Est-ce qu'il y a un site de référence ? Est-ce qu'il y a, voilà, où, si on veut s'intéresser à ce projet, où, oui, c'est qu'on va ?
Bah alors actuellement, bon, le projet, donc, enfin, j'ai même pas donné l'historique, hein, mais c'est vrai que j'ai commencé à le développer il y a 6 mois, hein, je crois que c'est voilà, en juin, juillet, j'ai commencé à y penser, et puis j'ai commencé à développer pas longtemps après. Et là, je viens tout juste de sortir un peu de l'ombre pour cette fois-ci susciter la vie et les commentaires de la communauté, des développeurs notamment. Et donc là, il n'y a pas grand chose de disponible. Il y a une mailing list, donc où actuellement on débat un peu de tout, mais je pense que c'est pas le bon endroit. Elle va servir vraiment de lieu d'annonce à terme. J'espère qu'on pourra mettre en place un forum bientôt, mais surtout là, pour toute personne qui voudrait s'y intéresser et se tenir au courant, il y a un petit site web là qui est encore juste une vitrine aujourd'hui, mais qui pointe vers tous ces lieux d'échange, qui s'appelle ucoin.io.
Ucoin.io.
Voilà.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Ucoin, excuse-moi, .io.
Ouais.
Et donc, voilà, c'est juste une petite vitrine qui pointe vers tous les.
C'est quoi le point, le point .io ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est que le point .io ?
Ah, bah, c'est une extension, alors je sais plus exactement à qui ça appartient, mais c'est, si tu veux, tous les projets, enfin, la plupart des projets sous Node.js, en fait, utilisent l'extension .io. Voilà.
Les projets, comment tu dis, les projets ?
Les projets qui utilisent Node.js.
Ah, d'accord. Node.js, la plupart sont en .io, d'accord. Okay.
Voilà, voilà.
Donc ça fait partie de cette galaxie-là, donc tu as choisi cette extension, d'accord. Donc ucon.io, bientôt il y aura un blog avec un petit flux RSS qui va bien pour donner quelques nouvelles. Alors évidemment, comme c'est un projet très proche d'OpenUDC, pour pas dire... on peut même presque dire qu'il implémente le protocole OpenUDC au niveau protocole, c'est les logiciels qui changent en fait.
Oui, mais le protocole n'est pas exactement le même. Alors, personnellement, même si les concepts derrière sont quasiment les mêmes, les mots utilisés ne sont pas identiques.
D'accord, donc il y a quand même des différences, mais probablement tu seras présent lors des prochains événements OpenUDC. Il y a de grandes chances qu'en fait s'il y a deux communautés qui se forment avec ce projet là, évidemment il y aura beaucoup d'interactions entre les deux, quoi. Donc c'est bien, c'est une très bonne chose, parce que évidemment le problème de la monnaie est complexe à plusieurs étages, hein, je crois qu'on l'a vu dans cette émission. Il faut d'abord comprendre que le système monétaire dominant tel qu'il existe en 2014, que ce soit l'euro, le dollar, le yuan ou n'importe quoi, est fondé sur un principe profondément asymétrique. Déjà, donc se rendre compte de ça, qu'il est pas légitime comme monnaie commune. Il donne la monnaie de façon privilégiée à certains dans l'espace ou à certains dans le temps. C'est-à-dire qu'il y aura des moments, il y a des moments où on crée beaucoup de monnaie ou des moments où on n'en crée pas, au détriment des hommes qui entrent dans le système selon leur âge. C'est un premier pas. Après, le deuxième pas, c'est de se dire, il y a deux réactions par rapport à ça. Hein. C'est effectivement de se dire. Eh bien, on va essayer de changer ce système monétaire-là. Donc, il faut convaincre tout le monde ou une grosse majorité, parce que c'est un système qui va fonctionner par majorité et que ça peut être changé. Sauf que ce système, il appartient quand même essentiellement aux banques. Et que même si une majorité voulait le changer, les banques ne seraient pas d'accord. Et c'est très difficile de forcer quelqu'un qui ne veut pas et à qui de modifier ce qui lui appartient, quoi.
Donc, c'est toute la démarche, je pense, hein, d'OpenUDC comme la mienne. C'est qu'on ne croit pas au changement venant d'en haut.
Ouais, voilà. Moi, je dis pas que j'y crois pas. Je pense que c'est possible. Je dis simplement que ça, il faut pas creuser que dans cette voie-là. Si on a un problème qui est traverser un fleuve, la bonne idée, c'est pas forcément de tous se mettre d'accord pour faire un pont. Il y en a qui vont dire mais un radeau suffit, et d'autres qui vont se dire je peux creuser un tunnel. Donc voilà. Donc ouais, ouais. Et on peut très bien avoir plusieurs solutions. Et de fait. Même en termes de route, d'ailleurs, on voit bien que parfois, pour passer une montagne, il y a plusieurs solutions. On a le tunnel et les petites routes, voire l'avion. Donc, il ne faut pas forcément opposer les choses. Il y a un problème, il est résolu par une approche qui est immédiate, à plus long terme, ou voire même qui l'avion. Pour l'avion, l'idée de l'avion, c'est pas de dépasser la montagne, mais il se trouve que l'avion le dépasse. Mais au départ, on ne veut pas faire un avion pour dépasser les montagnes. On veut faire un avion pour aller vite, indépendamment de, enfin, y aller dans le ciel et n'avoir aucun obstacle, quel qu'il soit, et il se trouve que ça résout le problème de passer une montagne. Donc, bon, bref, donc voilà. Et l'autre solution, c'est de se dire, ben bon, on peut toujours essayer de changer ce système monétaire là, mais déjà, je pense qu'il faut avoir conscience qui ne nous appartient pas, en fait. Je crois vraiment que c'est une propriété privée, en fait, donc je pense qu'on ne peut pas faire grand chose, mais qu'on peut développer, d'autres systèmes monétaires. Bitcoin l'a démontré, bon, l'Ethereum en parlait depuis longtemps. On n'a pas besoin d'attendre Bitcoin pour ça, mais bon, l'avantage avec Bitcoin, c'est que ça fait taire les sceptiques. Voilà, donc ça, c'est pour ça, c'est un gros argument. Et l'autre solution, évidemment, c'est de développer comme OpenUSD et tout. Et je pense que c'est très bien aussi que sur l'idée d'OpenUSD, mais sur d'autres projets comme YouCoin voient le jour.
Je ne l'aurais pas.
C'est infernal. Non, mais c'est l'anglais. Moi, j'ai du mal avec l'anglais.
Ça me... c'est pas grave.
Ouais. Mais c'est très positif. Et surtout, bien sûr, il faut faire. Parce que si on fait que commenter, au final, eh bien, on n'avance pas. Donc, voilà. Donc, d'ailleurs, même pour ceux qui ne sont pas développeurs, qui nous écoutent, qui ont du mal avec les procédés techniques, etc., on peut quand même participer à ces projets, que ce soit YouCoin ou OpenUDC, hein, ou bon, simplement en parlant sur son blog. Alors, on peut citer Plume, par exemple. Plume, c'est un blogueur belge qui fait un peu de politique aussi, parti pirate, je crois, bon, peu importe, hein, bon, qui est un peu connu dans le monde libre parce qu'il a fait quelques articles. Moi, j'en ai repris un sur mon blog. Il est bien, bon, c'est pas un développeur visiblement, mais il s'y connaît un peu, il est capable de tenir un blog ou de faire un truc, mais c'est son boulot et pas forcément de faire des développements, en tout cas très techniques. Enfin, en tout cas, il en fait pas de façon apparente. Et bon, mais concernant la monnaie, en tout cas, c'est sûr, il développe pas, mais il en parle. Voilà. Donc, il a parlé de Bitcoin, il a parlé du revenu de base aussi. Voilà. Bon, mais en faisant ça, il y participe sans forcément être lui-même développeur. On n'est pas obligé de développer pour participer, expliquer les principes à autrui via son blog ou son Facebook ou n'importe quoi. C'est aussi une façon de participer à ses projets parce que. Eh bien, par ce biais-là, des développeurs vont comprendre cette mécanique, comme toi-même tu l'as compris, et s'y mettre, soit en rejoignant un projet existant, soit en développant le leur, comme on l'a vu avec nous, Linux aussi. C'est pas parce qu'on a inventé le logiciel libre et le premier logiciel Linux par Torvald que derrière, il n'y a eu qu'un seul GNU Linux. Non, il y en a plein.
Mmh. Et, ouais, d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait déjà un choix maintenant, en plus d'OpenUDC, hein, parce que maintenant, si les projets se rejoignent, la diversité, je pense, c'est quelque chose de bon, en fait. Hein.
Là, la diversité est quelque chose de bon, et puis j'ai envie de dire, une monnaie libre ne veut pas dire une monnaie unique. Et donc, il peut y avoir des monnaies libres diverses, des monnaies à dividendes universelles, mais diverses. Et ça n'empêche pas non plus, là aussi, il ne faut pas se tromper, ça n'empêche pas non plus, certainement pas, le fait de pouvoir être universel, parce que le taux de change de ces monnaies, il existe, il est quasi automatique, comme on le voit aujourd'hui avec le Bitcoin. Quand on a des Bitcoins, on peut aujourd'hui se promener partout sur la planète, puisqu'il est échangeable en quasiment en n'importe quelle monnaie très vite. Ne serait-ce qu'il est échangeable ne serait-ce qu'en dollars, donc même s'il n'est pas échangeable directement en yuan, eh bien il suffit de l'échanger d'abord en dollars, puis après en yuan, et on a des yuan. Donc en fait, donc c'est des faux problèmes. Hein, voilà. Donc quand on comprend ça, des monnaies libres, numériques, bien gérées, qui repèrent leurs individus, qui associent leurs individus à la co-création monétaire, qui sont donc maîtres de leur monnaie, peuvent très bien s'interconnecter entre elles automatiquement et de façon transparente, permettre à ces communautés de faire des échanges économiques, même si elles ne partagent pas la même monnaie libre.
Tout à fait.
Voilà. Donc c'est pas du tout problématique dès qu'on prend un peu de recul et qu'on comprend aussi surtout le principe de relativité, tout simplement. Voilà, on n'est pas obligé d'utiliser la même horloge qu'on aille vite ou qu'on reste au sol. D'accord. Donc bon, mais super. Donc il faut bon, maintenant il faut suivre ce projet YouCoin, donc
voilà.
.io.
Bravo, c'est bon.
Voilà,
allez, on va dire UCoin pour les fâchés du
UCoin.
Ouais, parce que qu'on entend souvent Bitcoin, alors pourquoi pas Bitcoin,
hein, ouais, oui.
Faire aussi.
Moi, je dis préfère dire coin quand même.
Ouais,
quand,
ouais.
Quand j'y arrive.
je comprends bien. Mais du coup, c'est vrai que quand même au niveau des gens qui ne sont qui voudraient participer et qui ne sont pas développeurs, c'est vrai que bon bah Ucoin en a à ses débuts et donc il y a quand même des besoins, notamment en création d'un blog, hein, on n'en a pas, ou en création de forum, ou je ne sais pas, tout ce qui peut être promotion du logiciel, explication, ce genre de choses, c'est vrai qu'on a besoin d'un peu tout le monde, quoi.
D'accord, très bien. Donc Monnaie Libre en parle déjà. On va mettre aussi bien sûr le lien vers le site central qui on espère sera à jour bientôt.
Oui.
Et puis on souhaite bien sûr un fort développement à Ucoin, parallèlement à OpenUDC aussi qu'on soutient fortement ici aussi. Et surtout la réalisation de Monnaie Libre dans un avenir proche. Alors à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, peu importe, mais qui permettent aux hommes d'utiliser une monnaie qui n'est pas manipulable comme aujourd'hui les anciennes monnaies, les monnaies du passé, les monnaies encore dominantes et qui vont encore nous pourrir la vie pendant un sacré bon moment. Peut-être pour terminer, un petit mot sur la crise financière, comment tu la sens là maintenant?
je la sens bien, hein, je pense que c'est bon. Non, mais bah, c'est déprimant, hein, évidemment. Heureusement qu'il y a des projets comme OpenUDC, donc Ucoin maintenant, qui nous donnent un peu d'espoir, de changement, hein, quand même, parce que moi, je pense vraiment que c'est très concret. Hein. Là, pour l'instant, c'est vrai que les développements sont pas encore terminés, ni au niveau d'OpenUDC, ni de Ucoin, mais voilà, il y a de l'espoir, quand même.
D'accord, très bien. Donc, merci Cédric, Cédic pour les ouais. pour les tweetos ouais. ou les hein, voilà
ouais,
tu,
fait, ouais.
c'est ton pseudo c plus loin
c'est ouais.
C'est geek CG2EK voilà donc merci à toi à bientôt sur Monnaie Libre
ouais, et puis je te remercie Stéphane et puis merci aux auditeurs de m'avoir écouté.
Voilà, donc merci de nous avoir suivis encore sur ce numéro de Monnaie Libre spécial Ucoin. Voilà, j'y suis arrivé. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. On se quitte sur notre musique, notre générique fétiche No More Dreams de Nighter. Au revoir.